Et voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, le nouveau traité franco-allemand.
Macron et Merkel cherchent un nouveau souffle, titre Le Figaro. Le Figaro qui commence par tordre le bras à des fausses nouvelles qui ont couru sur les réseaux sociaux ces derniers temps. L'Alsace et la Lorraine livrées à l'Allemagne. La France qui accepte de partager son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Paris qui passe à l'heure allemande en soumettant sa politique aux fourches caudines de Berlin. Le traité signé ce mardi à Aix-la-Chapelle en Allemagne par le président Macron et la chancelière Merkel a nourri, pointe le journal, les fantasmes les plus hallucinants en France, relayés sur Internet et même parfois évoqués par des élus du Rassemblement National, de Debout la France ou de la France Insoumise. Rien de tout cela dans ce traité, s'exclame le Figaro, même s'il y est bien question des régions transfrontalières, de coordination des positions à l'ONU ou encore de la convergence des politiques économiques. En fait, précise le Figaro, ce texte vient compléter le traité de l'Élysée de 1963, fondateur de la relation franco-allemande, qui reste en vigueur. En 1963, il était question de réconciliation. En 2017, de co-responsabilité, analyse l'historien Étienne François. Face au bloc des partis eurosceptiques qui se préparent aux élections européennes, Paris et Berlin, eux-mêmes en mal d'élan, veulent redonner un souffle à leur coopération.
Alors concrètement, quoi de neuf dans ce traité ?
Réponse de la Croix, Paris et Berlin vont s'engager à accroître leur coopération pour créer des champions du numérique, développer la formation professionnelle, parer au changement climatique, renforcer leur sécurité, défendre ensemble le multilatéralisme. La coopération transfrontalière va être stimulée. Cette synergie doit permettre un développement économique et social attractif et partagé. Des résultats concrets seront d'ailleurs nécessaires, pointe la Croix, pour que les populations adhèrent à ce mouvement et pour que le moteur franco-allemand ait un effet d'entraînement dans toute l'Europe.
Trois nouveautés dans ce traité franco-allemand, précise Ouest France.
Tout d'abord, une plus grande coopération en matière de défense et de sécurité. C'est la fin du tabou allemand sur le sujet. Si l'opinion publique outre-Rhin reste majoritairement pacifiste, ses dirigeants, commencé par Angela Merkel, ont parfaitement compris que le parapluie américain n'était plus ce qu'il était. Deuxième nouveauté, poursuit Ouest France, d'ordre institutionnel, c'est là la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande chargée de mieux coordonner la transposition des décisions européennes. Enfin, le traité ouvre un champ jusqu'ici inexploré en matière de politique transfrontalière avec un aménagement de la vie quotidienne de millions de transfrontaliers.
À la une également, le grand débat national, une semaine après son coup d'envoi donné par Emmanuel Macron, où en est-on ?
Libération a assisté à 4 réunions organisées dans le cadre de cette grande consultation. Manifestants peu présents, espoir ténu. Le bilan semble mitigé, relève le journal. Pourtant, t'en perd-il dans son éditorial, 8 jours seulement après le début du grand débat imaginé par le gouvernement en réponse à la crise des Gilets jaunes. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur son intérêt. D'un point de vue quantitatif comme qualitatif, nombre de débats qui se tiendront, conditions d'organisation, affluence dans les salles, diversité des participants, thèmes abordés, propositions mises sur la table, il faudra regarder tout ça de très près. La première plongée que nous avons effectuée, poursuit Libération, dans ces 4 débats en confortera certains dans leur refus d'y participer. Stop à l'enfumage, clameront les opposants les plus vifs au président. D'autres, au contraire, y trouveront des raisons d'espérer.
En tout cas, attention au dialogue de sourds, prévient Le Monde.
Emmanuel Macron n'est pas dans la réconciliation des deux France, il est dans la poursuite de son combat, estime le quotidien du soir. C'est tout le sens de l'opération Reconquête qu'il mène depuis une semaine auprès des maires, sous le regard des caméras et donc des Français. Ces 2 déplacements, la semaine dernière dans l'Eure et le Lot, étaient symptomatiques, pointe Le Monde. Les heures passées à écouter les doléances des élus, puis à leur répondre, étaient moins des séances d'autocritique que l'occasion de déplier, de débroussailler des problèmes, les problèmes les plus complexes et les plus rébarbatifs. Cette méthode était finalement celle du candidat qui, une fois élu, l'avait un peu oublié. Emmanuel Macron se la réapproprie, relève Le Monde. Il en fait son va-tout pour tenter de surmonter la crise démocratique qui dure depuis 3 mois et le paralyse, et ce faisant prouver à ceux qui l'ont élu qu'il peut poursuivre l'œuvre de transformation du pays. Mais, conclut Le Monde, il le fait avec un tel goût du one-man show, un tel sens de la performance personnelle que l'idée même du grand débat en pâtit. À quoi sert de consulter les Français si leur président a réponse à tout.
En corollaire à ce débat, cette question à la une du Parisien ce matin, la France est-elle un pays inégalitaire ?
Eh bien, pas vraiment, répond le journal. Les statistiques affirment le contraire, même si des fractures se sont accentuées depuis la crise de 2008. Certes, le taux de pauvreté n'a globalement pas progressé depuis 11 ans, mais l'écart se creuse désormais avec les plus riches, quand les jeunes, les chômeurs, les familles monoparentales sont de plus en plus confrontés à la précarité. Et c'est sans parler des fractures croissantes entre territoires, d'accès aux services publics ou à l'éducation. De là, le sentiment d'injustice qui anime de nombreux gilets jaunes, ulcérés dernièrement par les dividendes records versés l'an dernier aux actionnaires des géants du CAC 40.
Alors, précise le Parisien, la France est toujours championne du monde de la redistribution.
Oui, le niveau d'inégalité de revenus parmi la population en âge de travailler est réduit d'un tiers grâce au cumul des impôts et des prestations sociales, les allocations chômage et logement, par exemple, là où dans les autres pays de l'OCDE, cette réduction n'est que d'un quart. Les écarts de revenus entre les riches et les pauvres ont-ils tendance à augmenter en France ? Non, répond le journal. La pauvreté s'accentue-t-elle en France ? Non, et également. Le patrimoine est-il un facteur clé qui explique les inégalités ? Là, oui, s'exclame le Parisien. En France, précise le journal, les 10% les plus aisés concentrent à eux seuls la moitié du patrimoine. Or, les inégalités de patrimoine sont en hausse. Entre 2010 et 2015, le patrimoine moyen des 10% des ménages les moins dotés a diminué d'un tiers en France. Pour cela, l'ascenseur social est bien en panne.
Merci Frédéric Couteau. Revue de presse à retrouver en ligne.